Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Regardez. Allez, j'ai choisi une question d'argent en fonction de mes invités, avec une question que je pensais jamais, si un jour on m'avait dit que j'allais poser cette question-là. J'ai même du mal à la dire, quoi. Faut-il investir sur la transition énergétique? Vous allez me dire oui, Alain Pitou. Et si oui, comment faire?
Alors je dis oui, mais attention, parce que c'est quand même un pari risqué, hein, c'est-à-dire que si on regarde on est en début de phase, hein, c'est quand même un moment qui est quand même assez difficile. Si on regarde ce qui s'est passé rien que sur l'automobile, j'écrivais tout à l'heure l'automobile, dans les années 1900, 2000 constructeurs américains, il en reste 300 ans après, donc faut bien choisir son cheval, et ça sera pareil.
Vous avez perdu beaucoup d'argent à l'époque, vous.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors moi, ce que je pense, hein, donc pour comment faire, parce qu'il faut être assez concret.
Il lit ses notes, c'est la première fois que je le vois comme ça.
Il
a bossé. Là.
Non, mais pour dire comment il faut faire, parce que y aller tout seul, c'est quand même difficile.
Vous laissez pas déstabiliser.
J'ai des exemples de fonds dans lesquels il faut investir. Donc, ouais, déléguer à des spécialistes. Il faut étager en fonction du risque, parce que plus vous allez être pur sur une thématique de la transition, c'est-à-dire que vous allez investir par exemple sur le solaire, vous pouvez vous tromper complètement. Si c'est, je dis n'importe quoi, si c'est l'hydrogène ou l'éolien qui se met à performer. Donc, faut faire attention à ça. Il faut se diversifier, si on se diversifie sur des industries connexes à la transition, donc ça part de la production jusqu'à la manière dont on la contrôle et dans la manière dont on la met en œuvre. Donc il y a quand même beaucoup d'industries possibles. Et puis je pense que autant il y a des investissements qu'on peut faire français ou européen, mais ça ne supporte pas ce genre de choses, c'est-à-dire que c'est vraiment, faut être totalement international. Donc ça vous donne quand même une grille de lecture.
Donc vous dites déjà, faut pas investir en direct, c'est ça que vous êtes.
Moi je pense que c'est très dangereux d'investir en direct. Après c'est un pari, hein, donc il y a des spéculateurs.
Donc vous dites qu'il faut aller vers des fonds.
Ouais, alors il faut aller vers des fonds. Donc comment faire concrètement? Alors il y a des fonds pour le private equity. Ça, je pense que ça s'adapte parfaitement à ça. Donc il y a quelques spécialistes. J'en ai cité trois que je trouve qui ont des fonds vraiment intéressants. Mirova, Tikeo, Odo, qui ont des fonds.
Sans les enveloppes là. Hein.
Non, pas du tout.
Après,
il y a des fonds purs, alors là, qui jouent vraiment l'énergie, la transition énergétique. J'ai en tête BNP Énergie Transition. Alors, vous voyez, c'est très volatile. Ils font moins 40% sur un an. Donc, ça fait quand même très mal. Et par contre, ils sont sur 3 ans, même avec ces 40%, ils sont à 75% de hausse, quoi. Donc, c'est quand même,
Ça fait mal au fond.
Et en plus diversifié, j'ai 3 fonds. Mandarine Global Transition, CPR Invest Climat Action et Pictec In Energy. C'est 3 fonds qui sont très diversifiés internationalement, qui jouent tout un tas de thématiques autour de la transition énergétique. Et puis sur ceux qui veulent pas payer de frais, j'ai un ETF forcément, l'Ixor ETF New Energy, qui lui est complètement diversifié, pas cher. Donc,
et qui a perdu combien vous avez en tête?
Il est sur un an, il est à moins 7.
Il n'a pas tellement perdu.
Non, il n'a pas tellement perdu. Mais il est très diversifié, donc intéressant.
Eric Lewin.
Alors moi, je joue que les big caps.
Ok.
Je joue toutes les big caps liées à la transition énergétique. Par exemple, Total, 30% des investissements de Total maintenant sont dans la transition énergétique. Pour jouer l'hydrogène, Air Liquide, ça me paraît très intéressant. Schneider, pour jouer l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est intéressant. La construction.
Donc des large caps, vous dites.
Ben bien sûr.
Ah oui.
Ben bien sûr, parce que de toute façon, ils investissent dans la transition énergétique. On est couvert parce qu'ils ont des activités récurrentes. Donc autant je suis d'accord avec Alain.
En plus, ils sont.
Autant je suis d'accord avec Alain sur les small caps, les Voltalia, les Neoen, c'est des beaux dossiers, mais ça reste quand même des dossiers qui sont complètement de niche. Moi, je pense qu'il faut plutôt jouer cette transition énergétique par les Schneider, par les Air Liquide, par les Stellantis, j'en parlerai tout à l'heure pour jouer la voiture électrique, par les Total, bien évidemment. On se constitue un portefeuille de toutes ces valeurs qui vont profiter de la décarbonation du monde et qui, en plus, ont des activités récurrentes et de la rentabilité. Parce que c'est vrai, où je suis d'accord, c'est que si vous investissez sur un éolien au Danemark, bah, il peut faire faillite du jour au lendemain pour un problème de financement. Donc, restons sur les grosses sociétés qui, de toute façon, investissent des fortunes parce qu'il faut qu'ils aillent vers la transition énergétique. Je pense que c'est un meilleur réflexe que même d'aller dans mon cœur business qui est les small et mid, où ça reste très, très compliqué. Parce que tous les petits dossiers, prenez un dossier sur la voiture à hydrogène, par exemple Opium, qui est la voiture à hydrogène de demain, il n'y a toujours pas de commande, il faut construire les usines, on ne sait pas où ils en sont en termes de chiffre d'affaires, il n'y en a pas beaucoup. Ce que je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué, alors restons plutôt sur des boîtes, des grosses boîtes du CAC 40 assez diversifiées qui vont profiter de cette tendance.
Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'argent à gagner? Je sais que ce n'est pas votre domaine et que vous n'aimez pas.
Pourtant, il aime l'argent. Hein.
Parler de bourse et parler d'actions et vous détestez les traders. Mais est-ce que vous pensez que quand vous réfléchissez, vous, Emmanuel Le Chip, chiffres à la transition énergétique. Et vous, j'entends ce que vous dites, je suis assez d'accord avec ce que vous dites pour dire qu'il faut faire les choses progressivement, peut-être aller très vite sur les nouvelles innovations, mais pas enterrer ce qui nous fait tourner aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est un secteur dans lequel il va y avoir de la création de richesses ?
Non, mais de toute façon, la norme demain, ce sera des entreprises qui sont beaucoup moins orthogonales avec les intérêts de la planète. Donc, bien évidemment, moi, si j'avais à investir, je me déconnecterais complètement de tous les investissements qui comptent, entre guillemets, d'une façon ou d'une autre, sur une forme de parole publique. C'est-à-dire de tous les investissements qui...
C'est impossible, ça. Parce qu'aujourd'hui, les principales sources d'argent pour les mid-cap, pour les entreprises de taille moyenne et les start-up,
vous pouvez faire des paris.
C'est les plans hydrogène,
vous pouvez faire des paris sur les technologies. Par contre, faire des paris sur, et vous allez voir où je veux en venir, faire des paris sur on vous promet qu'il y aura tant de bornes électriques en telle année, etc. Tout ça, moi, je fuirais ça comme la peste. Je n'ai aucune confiance dans ces paroles-là. Donc, bien évidemment qu'il faut investir massivement sur cette transition, qu'il faut aller à fond sur la chaîne, etc. Moi, quand même, ce qui m'inquiète, c'est ce côté binaire de l'investisseur. C'est-à-dire, en gros, zéro ou un.
Oui,
c'est-à-dire qu'en gros, on nous dit le pétrole, il ne faut plus de pétrole, on n'investit plus dans le pétrole. Or, la réalité, c'est que le monde entier a encore besoin de pétrole et que dans les au moins 5 ou 6 prochaines années, chaque année, la consommation de pétrole sera plus élevée que ce qu'elle était. Parce que le monde que nous décrit Alain, il n'existe pas. C'est-à-dire que la transition écologique, ça ne s'est jamais produit à l'échelle de l'humanité. Jamais. À chaque fois qu'on a utilisé une source d'énergie, qu'on en a découvert une, on lui en a additionné une autre. Mais on ne s'est jamais passé de la première source d'énergie qu'on avait trouvée. On a commencé avec le charbon, on a toujours du charbon. Et regardez ce qui se passe en Norvège.
On a même du bois encore.
Et bien même du bois, absolument. Et regardez ce qui se passe en Norvège qui mérite quand même d'être médité.
Allez, ça sera le mot de la fin de cette partie.
C'est que la Norvège, c'est le pays qui a le plus incité à passer à la voiture électrique. Il y a à peu près la moitié du parc automobile. Et la consommation de pétrole diminue à peine en Norvège. Voilà. Donc c'était censé faire de la substitution, ça n'en fait quasiment pas.
T'as raison, je vais acheter du Total.
Donc,
bien sûr, moi je te dis Total.
Allez, on s'arrête deux secondes. Eric Lewis,
le désinvestissement trop brutal dans les énergies brunes. Si on n'a pas de gaz demain, si on n'a pas de pétrole, de toute façon, la transition verte, vous pouvez l'oublier.
Pour les clients. Allez, un petit mot, le mot de la fin pour Anna.
Juste sur investissement, bah oui, moi je dirais oui. Effectivement, il faut y aller dans une logique de diversification. Donc, d'une part, effectivement, sur les gros. Mais uniquement en sélectionnant les gros qui ont su montrer ou qui apportent des preuves tangibles, qui sont capables de faire de la rentabilité et de la durabilité, effectivement.
Ouais, ça
et de la transition. Et justement, Schneider est un excellent exemple qui a prouvé sur les années précédentes qu'il était capable de faire les deux.
Merci. Et quel est le mot de la semaine pour vous, Eric Lewin?
Ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol des déclarations de membres de la Banque Centrale Américaine. Il y a eu un dénommé Harper hier, qui est patron de la Réserve Fédérale Américaine de Philadelphie, qui a dit non, les taux d'intérêt, 4%, c'est pas suffisant parce qu'il faut combattre l'inflation. Je trouve qu'on est trop sous le diktat. Et moi, je comprends pas quand même quelque chose à la Fed. Pourquoi il y a 100... Moi, j'ai regardé sur les 60 dernières séances sur le marché américain, 32 fois, il y a des membres de la Fed qui s'expriment, les taux sont trop bas, il y a de l'inflation, il n'y a pas d'inflation. Ça met une volatilité de malade. Et moi, je comprends pas pourquoi
Powell... Parce qu'en fait, si c'est très clair...
Non, mais pourquoi Powell ne contrôle pas ses troupes dans
non,
une
parce qu'en fait,
attendez,
parce que
mais
c'est
quand
le but...
LVMH, quand Bernard Arnault, patron d'LVMH, parle de ses résultats, vous avez pas le lendemain le directeur financier qui dit l'inverse, vous n'avez pas le lendemain le vice-directeur financier qui dit également l'inverse. Donc ce que j'ai envie de dire, j'en ai un petit peu marre de cette volatilité qui
est tellement énervé qu'il tape.
Non mais ça m'énerve, cette histoire, elle est complètement entretenue par les banquiers centraux.
Emmanuel Le Chip, le mot de la semaine pour vous.
Grève. Grève. Grève parce que
parce que vous êtes devenu syndicaliste.
Non, c'est pas ça, c'est que je trouve qu'on a aujourd'hui finalement réuni tous les ingrédients qui chacun pris séparément avaient déjà fabriqué les grands mouvements de grève de ces dernières années. Prenez la revendication salariale, c'est typiquement mai 68. Prenez les grèves contre les réformes des retraites, etc., c'est 95. Prenez ras-le-bol d'automobilistes.
Donc vous nous dites grève, c'est-à-dire grève à venir.
Oui, moi j'ai
vous nous prévoyez une grève générale.
J'ai très peur de la fin de l'année pour plein de grandes raisons, les grèves et puis tout ce qui est en train de se passer sur l'institut, sur le mur énergétique que vont devoir affronter énormément d'entreprises aujourd'hui.
Alain Pitou, le mot de la semaine pour vous.
Très rapidement, l'immobilier. Donc okay. On l'a vu depuis un moment, ça va pas en Chine sur l'immobilier. Les chiffres cette semaine sur l'immobilier américain sont pas très bons et sont cataclysmiques en France cette année. 27% de baisse des ventes de logements neufs, c'est une catastrophe. Bon, je pense que c'est lié à la liquidité, qui, comme je le disais tout à l'heure, il y a moins de liquidité, c'est plus difficile.
Il y a plus de crédit, donc voilà, c'est simple. Ça n'a pas la peine d'aller chercher.
Alors, ce qui est intéressant, je trouve, après, moi, je suis pas très inquiet sur la France, parce qu'il y a quand même un déséquilibre offre-demande qui reste, donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, pour le boursier, il y a les foncières côté qui sont à des niveaux historiquement bas, qui ont déjà pris en compte toute cette crise, je pense. Le marché a bien anticipé. On se retrouve avec un discount énorme sur ce genre de valeur. Je pense que ceux qui ont du temps peuvent investir un peu dans ce genre de valeur.
Même avec des
taux d'intérêt côté, par exemple,
des boîtes comme Unibail, Gessina, Covid.
Même des boîtes, même aujourd'hui, dans un contexte de taux qui est encore.
Ouais, mais c'est pris en compte et puis elles ont une capacité à remonter un peu leur loyer. Donc voilà.
Anna, quel est le mot de la semaine pour vous?
Moi, mon mot de la semaine serait rattrapage. Rattrapage sur deux plans. Tout d'abord avec l'électrification. Donc on l'a vu, c'était le salon de l'auto là, qui s'est tenu là, en début de semaine. Donc là, on voit justement tout ce qui est annoncé, tous les plans, tous les investissements. On entendait encore hier BMW qui va ouvrir une usine de batteries électriques, plus produire justement des véhicules électriques aux États-Unis et ailleurs. Enfin, on voit partout, je trouve, cette accélération, cette forme de rattrapage sur l'électrique. Et il y a de la marge de manœuvre, parce qu'on n'est qu'à 18% sur le parc automobile.
Vous allez énerver Emmanuel. Et la deuxième forme de rattrapage français.
Et le deuxième niveau de rattrapage, c'est sur les sources de revenus, justement, pour tout ce qui est les applications du numérique, etc. Donc là, on voit qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de TikTokisation, des Google via YouTube, des Meta via Instagram, etc., qui essayent en fait de trouver des nouveaux business models, des nouvelles sources de revenus en copiant un peu différentes fonctionnalités que permet TikTok et qui effectivement fonctionne bien. Et même on voit un peu au-delà de ça les Uber et compagnie là qui essayent aussi, qui sont déjà en train de développer des prototypes d'écran dans tout ce qui est les taxis autonomes, les navettes autonomes, etc. pour alimenter leurs revenus dont ils ont besoin.